Salutations à tous les enfants du Seigneur, à tous les frères et sœurs en Jésus-Christ. Et pour ceux qui ne font pas encore partie de la famille, ben on va vous expliquer dans la suite. On va essayer de vous dire qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça, de devenir un enfant de Dieu. Comment est-ce qu'on fait pour devenir un enfant de Dieu? Et peut-être que pour vous, ça n'a jamais été quelque chose de possible selon les enseignements que vous avez eus. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'à la lumière de la parole de Dieu, c'est que c'est très facile. C'est ben, dans le sens que c'est pas si facile que ça, mais ça a été payé un grand prix, je veux dire. Jésus-Christ a payé à la croix, en fait, le paiement complet pour que nous puissions recevoir le cadeau gratuit de la vie éternelle. Alors, si vous voulez, on va prier, on va remettre ça au Seigneur. Et puis, on va poursuivre notre étude sur les événements à venir selon la Bible. Mais Seigneur, on veut te dire merci pour toutes tes grâces, tes bénédictions qui se renouvellent à chaque matin, Seigneur. On veut te dire merci que tu as fait le plein paiement qui nous permet d'avoir accès à Dieu, qui nous permet d'avoir cette relation avec toi. Et puis, on veut te remercier, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous. On ne sera jamais assez reconnaissant. Je pense qu'on... J'aimerais ça, Seigneur, je te prie aujourd'hui pour que vraiment que tu viennes nous donner une idée de combien l'œuvre de Jésus-Christ est importante à tes yeux. Je pense que quand on étudie ta parole, on se rend compte que c'est quelque chose qui est très, très précieux à tes yeux. Et puis, il ne faut pas être familier avec ça. Puis, on ne le saura jamais, Seigneur, parce qu'on va vivre éternellement avec lui dans sa présence, les enfants qui vont avoir été sauvés pendant la période de la grâce. Alors, Seigneur, je te demande de me visiter puissamment par ton Saint-Esprit, parce que moi, si tu n'es pas avec moi, je suis un errant qui résonne. Alors, Seigneur, que ta volonté soit accomplie à travers ce partage, qu'on puisse être enseigné dans nos âmes, restauré, relevé, et puis aligné avec ta parole, Seigneur, et puis on te prie dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais saluer ma petite sœur qui m'a envoyé un courriel pour dire « Hey, je t'écoute là, c'est cool, merci! » Il était content, fait que je voulais dire à ma petite sœur Lynn que j'étais bien content de ça, que j'avais bien reçu son message, et puis salutations à tous les gens qui nous écoutent. Je pense que c'est déjà fait, mais on ne veut pas être familier avec tout ça. Et j'ai fait un petit spécial ce soir, je me suis rendu compte en écoutant mon enregistrement que ma chaise craquait beaucoup. J'ai eu d'autres problèmes aussi de micro, là. Je suis obligé d'utiliser le micro de mon portable. J'essaie de brancher un micro dedans, puis ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien à faire, il revient toujours au micro du portable. C'est pour ça que c'est écho un petit peu. Mais on va essayer de passer par-dessus ça, puis on va essayer de se concentrer sur ce qui est plus important. C'est le message de la parole de Dieu. Alors, on va faire une petite révision rapide. Hein. On fait tout le temps ça, parce que je me rendais compte, quand on faisait des partages deux fois par semaine, les gens ne se souvenaient pas. Même si c'était deux, trois jours, les gens ne se souvenaient pas ce qu'on avait parlé. Fait qu'on fait toujours une petite révision rapide pour se remettre dans le contexte. Puis on continue. Hein, on avait vu que les Écritures déclarent que ce qui est arrivé dans le temps de Noé puis dans le temps de Lot va arriver bientôt. Il va y avoir une épuration. Il va y avoir une épuration de toute la population sur la terre, qui va être faite, et ce qu'on appelle la colère de Dieu. Et puis, on regarde maintenant ensemble les événements à venir selon la parole. Alors, on a vu que c'était que Dieu mentionne que ça va être la même chose qui est arrivée du temps de Noé, c'est que les gens vont se marier, vont boire, vont manger, tout va aller bien, et puis va arriver le fameux jour de l'Éternel. Si vous voulez faire des recherches, combien on parle du jour de l'Éternel dans les Écritures, je pense que c'est important que vous vous rendiez compte que Dieu veut vraiment nous prévenir que c'est un moment à ne pas vivre, autant que possible, à ne pas vivre. Il ne veut pas que ses enfants soient là, il ne veut pas. Ça va vraiment être des gens qui vont avoir renié son nom, et ils vont avoir refusé qu'il règne sur eux. Hein? C'est ça qu'on va voir avec la parole ce soir aussi, entre autres avec la parabole de Luc que je vous disais, c'est que ces gens-là vont avoir refusé que Jésus règne sur eux. Ils vont avoir refusé le cadeau de la vie éternelle. La seule raison pour laquelle Dieu ne nous acceptera pas, dans son royaume, évidemment. Mettez-vous à sa place. Dieu est le Créateur. Il est Créateur de toutes choses. Tout lui appartient. Il est, Jésus-Christ déclare qu'il est l'alpha et l'oméga, le début et la fin, le chemin, la vérité et la vie. Il nous dit même que sans lui, on ne peut rien faire. Et puis, les Écritures, il y en a partout sur Internet, il y en a partout, les gens peuvent consulter, mais le Seigneur a dit, quand est-ce que je vais revenir, est-ce que je trouverai-je la foi? Hein? Je pense que la foi est en train de... Et c'est pour ça que c'est important de parler. Moi, je continue de servir mon Seigneur parce que il n'y a rien d'autre pour moi qui est plus important que ça, parce que ce que je fais là, ça va avoir des répercussions éternelles sur ma vie éternelle. C'est la seule chose que je peux faire dans ce monde présentement qui va avoir des répercussions éternelles, pardon. Toutes les autres choses, toutes les occupations, les soucis du siècle présent que la Bible dit, mais ça va tomber, ça va passer. C'est pas important. Le Seigneur, il vient souvent nous ramener. C'est la parole qui est importante. C'est sa parole qui va rester. C'est sa parole qui va durer éternellement. Alors, oui, je suis un adepte de la parole de Dieu. Autant que cela se peut. Oui, j'ai une chair comme tout le monde. Et oui, j'ai à vivre avec ça. Mais le Seigneur nous demande de dominer sur notre chair. Maintenant qu'on est des enfants de Dieu, qu'on a reçu le Saint-Esprit, il a dit maintenant, tu dois dominer sur ta chair et la chair ne doit pas dominer ta vie. Parce que la chair est ennemie de Dieu. Hein? Paul nous dit que la chair ne peut même pas se soumettre à Dieu. Alors, il faut apprendre à la laisser mourir plutôt que de dealer avec. Il faut qu'elle meure. Ensuite, Dieu va nous renouveler, va renouveler notre intelligence, puis il va nous revêtir de l'homme nouveau, hein? Comme Paul dit dans les Écritures. Et on avait vu aussi, on avait argumenté un peu sur le temps de l'enlèvement. Quand est-ce que, comment j'avais arrivé à cette conclusion que nous ne serions pas là, les enfants de Dieu, nous ne serons pas là. Et puis on avait dit que la colère de Dieu n'est pas pour ses enfants, un. Deuxièmement, la colère de Dieu, ce sont des jugements. Et puis nous, on ne vient pas en jugement. Jean 5, 24, ça dit qu'on ne vient pas en jugement. Par contre, les jugements sont pour la loi. Et on a vu que dans la 70e semaine de Daniel, ben, l'humanité revenait sous la loi. Donc, on continue par rapport à ça. Là, j'ai deux souris, il ne faut pas que je me trompe. Et puis, on avait fait ça. Je vous avais fait un petit résumé. Donc, on avait vu que Jésus-Christ revenait personnellement. On avait vu qu'il revenait à l'improviste. On a vu qu'il revenait subitement. Vous avez donné les versets pour ça. On avait donné beaucoup de versets. Et puis, on a vu qu'il revenait dans la gloire de son Père avec ses anges. Et puis, on arrivait à triomphalement. Pourquoi on dit triomphalement? Je vais vous donner la parabole de Luc 19, versets 11 à 27. Luc 19, versets 11 à 27. Et puis, c'est le but du partage ce soir qu'on va faire ensemble. Et puis, bien évidemment, j'ai demandé vraiment au Seigneur de m'expliquer cette parabole et puis de me donner des images pour nous aider à comprendre. Et puis, dans le contexte, il faut voir un petit peu le contexte là, de cette parabole-là. Juste avant, il venait de dire à ses disciples, il venait juste de dire au verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu sauver, chercher ses enfants. Et puis là, il arrive avec cette parabole-là, puis juste pour vous dire, après, c'est le moment où il entre triomphalement à Jérusalem sur lequel jamais personne n'était monté, en passant, que ça dit, pour respecter la prophétie. Un anon, hein? C'est un anon. Et puis, c'est ça. Donc, c'était le règne. Donc, ce qu'il nous explique ici, il nous donne une image dans sa parabole qui parle de lui-même, évidemment. Donc, il dit, Jésus ajoutait à cette parabole, verset 11, parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Donc, au verset 12, il dit, un homme de haute naissance s'en allait dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Bon, alors, comme je vous dis, j'ai pris verset par verset, puis j'ai vraiment pris le temps de demander au Seigneur. Et puis le Seigneur, m'a amené dans un autre verset. Plusieurs autres versets que je vais vous donner. Je vais vous les donner assez rapidement, on ne les lira pas. Je vais juste vous résumer c'est quoi les versets. Ce n'est pas que ce n'est pas important, c'est très important. Mais c'est l'image qu'il nous donnait. Bien, c'est comme s'il disait ça, ce que je suis en train de vous dire là. Bien, c'est ça. C'est ce qui se passe dans ces versets-là. Donc, c'est Hébreux 1, 13. Hébreux 1, 13. Psaume 110, verset 1. Psaume 110, verset 1. Daniel 2, 44. Daniel 2, 44. Matthieu 22, 44. Matthieu 22, 44. Marc 12, 36. Marc 12, 36. Luc 20, verset 43. Luc 20, verset 43. Acte 2, verset 35. Acte 2, verset 35. Et 1 Corinthiens 15, 25. 1 Corinthiens 15, 25. Bon, qu'est-ce qu'on dit dans ces versets-là? Vous irez voir par vous-même, mais ça dit, entre autres, que présentement, ça dit un peu où ça va nous situer, où est Jésus présentement. Alors, dans le psaume 110, on va prendre le psaume 110. L'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied, pour le marchepied de tes pieds. Alors, présentement, le Seigneur, c'est dans cette parabole-là, le verset qui nous dit là, c'est ça. C'est cet événement-là. C'est qu'il est assis présentement à la droite de Dieu, dans le lieu très saint. Et puis, on voit ça dans Hébreux 9, 28, si je ne me trompe pas. On va aller voir ça. Hébreux 9, 28. Et il est grand sacrificateur pour nous. C'est quand même intéressant. Alors, je suis en train de lire dans Hébreux. Bon, verset 24. Hébreux 9, 24. Car le Christ n'est pas entré dans des lieux saints faits de main, copie des vrais, mais dans le ciel même, afin de paraître maintenant pour nous devant la face de Dieu, ni non plus afin d'offrir lui-même plusieurs fois, ainsi que le souverain sacrificateur entre dans les lieux saints chaque année avec un sang autre que le sien, puisqu'il aurait fallu qu'il souffrît plusieurs fois depuis la fondation du monde. Mais maintenant, à la consommation des siècles, il a été manifesté une fois pour l'abolition des péchés par son sacrifice. Alors, il est notre souverain sacrificateur dans le lieu très saint pour nous, en attendant son retour. Donc, le premier verset, c'est de ça qu'il est question. Le deuxième verset, il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Ici, ça c'est la version Louis II. Dans la version, puis là il y a peut-être des vieilles outres qui vont craquer quand ils vont entendre ça. Mais c'est pas pour faire, c'est vraiment ça qui est marqué dans l'original. Dans l'original, ça dit pas des serviteurs, ça dit des esclaves. Quand on décide de servir Christ, la parole dit qu'on est ses esclaves, hein? On est serviteurs de Christ. Paul, il disait lui-même, il se vantait d'être un esclave de Christ parce qu'il savait qu'est-ce qu'il y avait de rattaché à ça, quelles étaient les récompenses attachées à ça. Un peu comme Moïse qui disait, quand vous lisez les Écritures, qu'il avait les yeux fixés sur la récompense. Alors, quand on est serviteur de Dieu, puis qu'on commence à toucher au ciel un petit peu, on commence à prendre conscience de ça, plus, je vous dirais. Alors, ici, il parle des gens qu'il a choisis pour le servir, c'est-à-dire que il leur a donné des dons, ces gens-là, pour le représenter pendant qu'il est parti aller se faire donner. Comprenez, là, il est en train de se faire donner l'autorité. Hein? Il est allé se faire investir de l'autorité royale, comme le verset dit. Alors, il a demandé à ses serviteurs pendant ce temps-là d'aller faire valoir ses mines. Qu'est-ce qu'elle peut bien être, ces mines? Alors, c'est bien certain que j'ai été en prière pour ça. C'est bien certain que le Seigneur m'a répondu. Mais comme ici, on parle de serviteur, et vous allez voir plus loin, on parle de concitoyen. Là. C'est des choses différentes. Il ne faut pas mélanger ça. Les serviteurs, c'est vraiment des gens qui sont sauvés, puis qui ont des dons, qui ont reçu des dons pour servir Dieu. C'est pour servir Dieu qu'ils ont reçu ces dons-là. Alors, il appelle ses serviteurs, il leur donna 10 mines. Quelles sont les mines? Ben là, je vous en ai donné un petit exemple, là, que c'est Il y avait des dons, mais c'est pas, c'est, les mines, ce n'est pas des dons. Le Seigneur m'a mis à cœur que les mines, c'était la parole de la vie éternelle. Alors, il dit, vous avez, chacun de vous, mes enfants, avec vous, avec les dons que je vous ai donnés, vous avez la parole de la vie éternelle. Et qu'est-ce qu'il dit dans le verset? Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Alors, il s'attend de nous que l'on le serve, qu'on lui parle, qu'on travaille pour le royaume, qu'on travaille pour la moisson. Hein? Quand il a dit, quand il est parti, allez et faites de toutes les nations des disciples. Mais c'est ça. C'est ça que ça veut dire, ce verset-là. C'est l'image qu'il m'en a donnée. Alors, allez faire valoir nos talents et la parole de la vie éternelle. Verset 14, on arrive dans une situation où je vous rappelle qu'il rentre dans Jérusalem, là, le contexte. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et il envoya une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. De quoi vous pensez qu'il parle ici? Il parle des Juifs qui vont le crucifier quand ils ont fait un procès, quand Pilate il disait, c'est-tu votre roi? C'est pas votre roi. Es-tu roi des Juifs ou il ne l'est pas? Non, il ne l'est pas. Non, il ne voulait pas. Hein? Il ne voulait pas que Jésus règne sur eux. Alors, c'est exactement l'image qu'il m'a donnée. Puis là, il est en train de dire ce qui va se passer. Lui, il le sait. Là. Il rentre là, dans Jérusalem. Il s'en va vivre ça. Fait qu'il dit, mais c'est quoi? Ce concitoyen le haïssait. Là, moi, je lisais, ils envoyaient une ambassade. J'avais le goût de dire une embuscade. En tout cas, pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme... Mais l'ambassade, elle a été envoyée à Pilate. Hein? Les autres, ils ont jugé Jésus de nuit. Ils l'ont arrêté de nuit. Ils ont violé 22 de leur propre loi pour le juger. Et puis, après ça, ils l'ont amené à Pilate, après ça Hérode, après ça il est revenu à Pilate, là, comme vous connaissez l'histoire. Mais ici, dans ce verset-là, il est en train de dire ça. Il est en train de dire, bon, ben, ils ont dit qu'il voulait pas que je règne. Lui, il s'en venait régner, imaginez. Il s'en venait régner pour 1000 ans. Et puis, voilà, le peuple le rejette. Alors, maintenant, verset 15, 2000 ans plus tard, on est rendu 2000 ans plus tard, lorsqu'il fut de retour après avoir été investi de l'autorité royale. Alors, quand il va revenir en vainqueur, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné de l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Mais vous savez que l'argent, c'est sa parole. C'est la parole de la vie éternelle. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Alors ici, on a une image des gens qui auront servi le Seigneur que à plusieurs endroits dans les Écritures, pas juste là, mais à plusieurs endroits, ça dit qu'on va régner avec Christ à des niveaux différents. Il va y avoir des rangs différents, dépendamment comment on va avoir décidé de servir Christ dans notre vie ou décidé de s'installer dans le monde, mais il va y avoir des rangs dans le millénium, dans le royaume de Dieu. Est-ce que je suis au fait de ces rangs-là? Non. Mais je peux vous dire qu'il va y avoir des rangs. Ça ne sera pas tout le monde qui va être égal. Ce qui n'est pas la même chose pour la vie éternelle. La vie éternelle, ça, tu l'as ou tu ne l'as pas. Puis quand tu l'as, tu l'as. Tu ne peux pas le perdre. Ce qui peut arriver, c'est que papa vienne nous donner une tape sur les fesses. Puis si on ne comprend pas, on est rappelé à la maison. Hein? Vous savez que c'est comme ça que ça marche. Si papa n'intervient pas, il faudrait s'interroger si on est vrai, si c'est vraiment notre papa. Alors, on a vu que il a dit, moi ce qui m'impressionnait là-dedans, puis ce que j'ai demandé l'explication de ça aussi, c'est toujours tu as été fidèle en peu de choses. Alors, je demandais au Seigneur, pourquoi tu dis à fidèle en peu de choses, puis il a ramené 10 mines? C'est dans le sens que c'est lui qui prépare les œuvres. Nous, tout ce qu'il nous demande, c'est de marcher. Marche! Approche-toi de moi, puis marche. Le reste, c'est moi qui vais le faire. C'est des œuvres qui sont préparées d'avance pour toi, que j'ai préparées pour toi, parce que je voulais te donner des récompenses, parce que je voulais te rendre participant à ma nature divine. C'est pour ça qu'il dit, tu as été fidèle en peu de choses. Vous comprenez? Moi, j'étais content d'avoir l'explication, parce que ça, c'est un texte que je lisais, Et puis que, voyons, je ne comprenais pas pourquoi les gens avaient l'air à travailler, puis ils disaient, t'as été fidèle en peu de choses. Ben, finalement, c'est parce que c'est lui qui le fait, c'est pas nous. C'est quand nous, on le fait, on est sur notre chair, puis on essaye de faire de quoi sur Dieu. Pour Dieu, ben, c'est corrompu. Hein? Devant sa face, c'est corrompu. Faut que ce vraiment que ce soit lui, il faut que notre chair elle meure. Le second vin, verset 18, il dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Un autre vin, il dit, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge. Car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Wow. On va arrêter ici, là. Ça, c'est la même chose que je vous ai parlé à propos, parce que là, quand on lit ça, puis on ne connaît pas le Seigneur, puis on ne connaît pas la pensée du Seigneur, mais on peut. C'est un serviteur, ça. Et on peut penser que le salut se perd, parce que c'est un serviteur de Dieu. Il est dans la classe des serviteurs. Mais quand j'ai demandé au Seigneur de m'expliquer ça, ben, il m'a expliqué la même chose, il m'a fait comprendre la même chose qu'avec les 10 vierges. Cet homme n'est pas mon enfant. Parce qu'il dit, et je le cite, j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère, tu prends ce que tu n'as pas déposé, tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Voyons, un enfant du Seigneur, vas-tu dire ça au Seigneur? Non, hein? C'est parce que lui, là, le Seigneur, il voulait, ça ne l'intéressait pas de servir le Seigneur. Il enterrait ça. Plus loin qu'il a pu, hein? Il enterrait son don, puis la parole de la vie éternelle avec. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez pourquoi le Seigneur agit comme ça maintenant? Pourquoi qu'il va lui dire, on notera même ce qu'il a? Ben ça aussi, on a eu une explication pour ça. Donc, on continue. Verset 22, le Seigneur lui dit, je te juge sur tes paroles. Ça arrive souvent avec le Seigneur, ça. Méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas, mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je la retirasse avec un intérêt? Là, le Seigneur, il est en train de dire, t'avais pas juste peur, là. T'avais pas une grande. J'essaie de le dire parce que j'ai un mot québécois que je ne veux pas dire. Mais le Seigneur, il n'était pas très important pour lui. Il n'y avait pas beaucoup de respect pour lui. Puis. Tu sais, quand on lit souvent dans les Écritures, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse, là. Ben, lui, il n'avait pas l'air à le craindre trop, trop. Parce qu'il a pris son argent, il est allé enterrer ça. Au lieu de faire fructifier les affaires du Seigneur, il est allé enterrer ça. Fait que ça, c'est même une attitude d'ennemi, je dirais. Hein? C'est une attitude d'ennemi de Dieu. Alors, puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. Et dire, Seigneur, il y a 10 mines. Je vous le dis, on donnera à celui qui l'a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Bon, on va camper sur les 2 derniers versets un petit peu, si vous voulez. Alors, ôtez-lui la mine, donnez-la à celui qui a les 10 mines. Ça, c'était la révélation que j'ai eue dans ce verset-là, c'est que ce que le Seigneur nous demande. Il veut nous le donner, comprenez-vous? Y a-t-il demandé aux gens-là, à ces gens-là, de leur remettre l'argent? Non. Il dit à celui au méchant serviteur, il dit aux autres, enlevez-y sa mine, donnez-les à celui qui en a 10. Il n'a pas dit donnez-moi-les. Vous comprenez ce qu'on fait? Il est en train de nous dire ce qu'on fait ici. On est en train de préparer notre éternité, ce qui va affecter éternellement notre vie avec Dieu. Alors, on a une opportunité, je ne sais pas si vous comprenez, là. Les gens n'ont pas l'air à comprendre ça, parce que si les gens comprendraient ça, les gens seraient plus hâtifs pour servir le Seigneur. Alors ça, c'est une vérité, c'est que les mines n'étaient pas pour lui. Il laisse les mines à ses serviteurs, puis il dit « je te donnerai autorité ». Sur 10 villes, ça veut dire ce que tu as ramassé, ben, c'est toi qui vas avoir autorité dessus. C'est toi qui vas être le roi. Hein? Quand le Seigneur a dit tu vas être les juges, ben, le juge, c'est le roi. Juste pour vous dire ça, quand on étudie la parole. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir dire? On ôtera même ce qu'il a. Ça veut dire qu'on a l'espace d'une vie pour décider ce qui va nous arriver éternellement. Là, ce qu'il est en train de dire, on ôtera même ce qu'il a, c'était, il va être jugé, là, pardon. Il va être jugé, puis il va être envoyé, vous savez où? Verset 27, « Au reste, amenez ici mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, que je règne sur eux, si vous préférez, et tuez-les en ma présence. » Ça a l'air dur, hein, quand on lit ça. Moi, j'entends déjà des gens qui disent « Ah, oh, Dieu est amour, Dieu ne tuera personne. » Tu sais, les gérants d'estrade de Dieu, là, qui parlent de Dieu, mais ils n'ont jamais ouvert la Bible. Quand on ouvre ce livre et on se met à lire et on met à chercher le Seigneur, la première chose qu'on sait, c'est que le Seigneur dit, il nous prévient tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis il dit, veillez, veillez, puis tu sais, soyez, cherchez Dieu, puis soyez réconciliés avec Dieu. C'est tout le temps ça le message qu'il nous donne, parce que le jour de l'Éternel, je vais vous dire que c'est un jour qui ne sera pas facile à vivre pour les habitants qui seront sur la terre à ce moment-là. Je pense bien que ça va être quelque chose de jamais vu, tel que la Bible dit, quelque chose qui de jamais vu puis qu'on verra jamais. Tellement ça va être terrible, ce qui va arriver dans ce jour-là. Mais ces gens-là vont avoir refusé que Jésus règne sur eux. C'est ça. Et puis, tu sais, ça peut pas nous entrer, tu sais, ça peut être difficile à comprendre pour nous qu'il y a un Dieu qui est tant d'amour, mais un Dieu qui a tant de justice. Parce que sa justice, il faut qu'elle soit accomplie à 100% aussi. Et puis nous, on est chanceux parce que c'est son fils qui a été frappé pour nous. Mais c'est un peu pour quand je demandais au Seigneur qu'il me parle de ça, de ce phénomène-là, là, qui est amour, et puis d'un autre côté, on voit qu'il y a des gens qui vont être détruits. Bien, la première chose qui est venue à l'idée quand que j'ai demandé ça, c'était que son fils était très, très, très précieux pour lui. L'œuvre de son fils et son fils Jésus-Christ, c'est ce qui a le plus important à ses yeux. Et si vous regardez les Écritures, il parle de Jésus-Christ à partir de la Genèse. Dans tous les livres, ça parle de Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ, le sacrifice du Messie. En passant, si vous voulez savoir comment Jésus se sentait sur la croix, Psaume 22, pour ceux qui s'intéressent. Donc, oui, il va y avoir des gens qui vont être tués, qui vont être envoyés dans les ténèbres éternellement, que la parole de Dieu dit. Éternellement. Et dans ça, il va y avoir des gens qui pensent qu'ils sont sauvés. Et puis ceux-là, c'est ceux-là qui parlent plus souvent dans ces paraboles, parce qu'ils parlent de vierges, ils parlent d'hommes qui travaillent au champ, ils parlent de femmes qui moudront à la meule, tu sais, toutes sortes d'images comme de quoi que ce sont des gens qui sont soit dans des églises ou soit dans... qui sont certains. Dans le fond, là, c'est des gens qui sont certains qui vont entrer dans le royaume de Dieu parce qu'ils se tenaient, vous vous souvenez, ils se tenaient à la porte aux noces d'agneau. Sont venus cogner, mais le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Et puis ça, c'est la nouvelle naissance, je vous ai expliqué ça. Si on n'a pas vécu la nouvelle naissance, bien ici encore, dans cette parabole de Luc, verset 19, on voit qu'il y a un méchant serviteur. Un serviteur qui n'avait pas grand-chose à faire de la parole de Dieu et du don qu'il lui avait donné, qui a mis ça dans le tiroir. Il y a du monde qui revient, je redonne. Ça regarde plutôt comme un serviteur qui n'a pas beaucoup de respect, il n'a pas beaucoup d'honneur non plus envers ce... Tu sais, c'est pas honorable du tout de faire ça, c'est comme méprisant. Je vous dirais, c'est presque méprisant, donc je comprends ce que le Seigneur dit. Et l'autre chose, pourquoi qui va détruire ces gens-là? Bien, les gens ils ont refusé que Jésus-Christ règne sur leur vie. C'est le royaume de Dieu, puis il l'a remis à son fils. Hein? C'est ça. Ça dit les Écritures. Mais vous autres, vous avez refusé que Jésus-Christ règne sur vous. Vous avez choisi la bête. Bien, vous allez aller avec la bête. Pourquoi, mettez-vous un peu dans le contexte, on ne peut pas s'imaginer comme Dieu, mais je suis capable d'imaginer que si j'avais un royaume à moi, puis que j'aurais donné mon fils unique, mon bien-aimé, que la parole dit, puis que je l'aurais envoyé faire battre par l'ennemi pour que tu aies la vie éternelle et que tu choisisses l'ennemi. C'est sûr que je serais très fâché moi aussi. Ouais, je pense que je serais très fâché moi aussi d'être ça, que tu n'aies pas plus de respect pour ce qui a été fait pour toi à la croix, puis tu choisisses de te rouler dans la boue avec l'ennemi. C'est probablement que je te laisserai pas entrer dans mon royaume non plus. Je vais vous dire, je comprends ça, malgré que le fait dans cette image-là, dans tant de morts, tu sais, ça nous traumatise un peu. C'est sûr que moi, ça me traumatise en tant qu'être humain. Mais quand on regarde les Écritures, on voit que même les saints, parce que les saints vont souffrir beaucoup pendant les tribulations à cause de l'ennemi, même les saints disent, ceux qui sont en dessous de l'autel, jusqu'à quand tarderas-tu, Seigneur, à manger notre sang? Même les saints dans le ciel vont être indignés de l'attitude de l'homme en dernier. Comment l'homme va se rebeller contre Dieu, puis même le Seigneur il appelle ça l'indignation. Il faut que l'indignation soit à son comble. Alors, c'est important de prendre le temps de cette parabole, de vérifier ce que le Seigneur voulait nous dire, parce que souvent, on lit des choses, on les lit trop rapidement. Quand on prend le temps de lire chaque parole, puis de demander au Seigneur qu'il nous l'explique, mais là, on voit que c'est profond. C'est plus profond qu'on pensait que nous autres, avec notre compréhension humaine, ben on les voit pas. Faut vraiment être humble et puis aller sur nos genoux puis demander au Seigneur. Après ça, on va passer, on va continuer si vous voulez. Après ça, l'ascension, il y a deux hommes. Après l'ascension de Jésus, il y a deux hommes vêtus de blanc. Ont déclaré qu'il reviendrait personnellement, corporellement, visiblement et soudainement. On voit ça dans Actes 1, versets 10-11. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. Ils n'ont pas reconnu, hein, c'est pas important. Et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Et puis, il y a quelque chose qui est écrit depuis la Bible. C'est bien qu'on en parle un petit peu. Parce que depuis 2000 ans, ça dit veillez, veillez. C'est vrai, hein? Depuis 2000 ans, ça dit veillez, veillez. Tu sais, puis là, le monde dit mort, là. Tu sais, le monde ne croit plus à ça. Mais dans le fond, le Seigneur nous dit de veiller aussi parce qu'on ne sait pas quand est-ce que notre âme va nous être redemandée. C'est pour ça que le Seigneur nous dit tout le temps veillez. Puis cherche Dieu, puis perds pas de temps. Parce que tu sais jamais ce qui va t'arriver. Tu peux mourir demain matin. Ça dit, Hébreux 9, 27, l'homme meurt, vient en jugement. Ben, pas tout de suite, là, mais quand ça va être le temps des jugements. Fait que c'est pour ça que souvent, ça dit de veiller, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il doit venir. Dans Hébreux 10, 37, ça dit, encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et puis, ça dit 2000 ans. Bon, on sait que c'est 2000 ans, hein, il devait venir 2000 ans après. Les gens pensaient que c'était 2000 ans. Souvent, plusieurs pensaient que c'était 2000 ans après sa naissance. Fait que tout le monde s'attendait beaucoup à quelque chose en l'an 2000. Mais finalement, ce n'était pas à sa naissance. C'était au début du ministère de la dispensation de la grâce. Alors, la dispensation de la grâce a commencé avec le ministère du Saint-Esprit. Après la crucifixion de Jésus à la Pentecôte, hein, quand il y a 3 000 gens, là, 3 000 personnes qui se sont converties, puis là, ils voyaient le Saint-Esprit descendre sur eux. Puis dans la chambre haute aussi, là, c'était arrivé avec le Seigneur, quand l'Esprit est descendu sur les. Mais il y a deux endroits qui parlent que les apôtres ont reçu l'Esprit, mais bon, on va s'en tenir à la Pentecôte. Mettons qu'on dit la Pentecôte, et puis la Pentecôte, ça, c'est environ 50 jours après la crucifixion. Et puis, si on revient à peu près que l'année que Jésus-Christ a été crucifié, il était crucifié à 33 ans, donc on serait pensé de dire qu'il a été crucifié en l'an 33. Alors, si vous suivez mon cheminement, mais quand on étudie la parole, c'est après la 70e semaine. Mais il faut enlever les 7 ans, les 7 ans de tribulation. Peut-être, de toute façon, comme je vous dis, c'est moi selon ce que moi je pense. Écoutez, en étudiant la parole, puisque le Seigneur me montre, moi je pense, je quand même, mon Seigneur, quand il dit 2 jours, il ne dit pas 2 jours et 3 mois. Il sait 2 jours, puis 2 jours, c'est 2000 ans. Mais le Seigneur a dit qu'il n'y a personne qui connaît le jour puis l'heure, il y a juste lui. Mais tu sais, en tant que chrétien qui étudie la parole, on a le droit de se lancer des affaires comme ça. On va voir ce qui va en être. Mais l'événement qui est important, qui marque le début des tribulations, on nous le dit dans les Écritures, c'est la signature d'un traité de paix avec Israël pour une durée de 7 ans qui va leur permettre de rebâtir le temple. Quand on étudie ça un petit peu, on se rend compte que sur le mont, qui est le temple, qu'ils veulent bâtir le temple, il y a une mosquée. Oui, c'est pour ça qu'ils ne rebâtissent pas le temple. Tout est prêt, les matériaux sont prêts, tout est prêt. Ils ont tout ce qu'il faut, sauf qu'ils n'ont pas la paix. Hein? Et puis là, quand ils vont être certains d'avoir la paix, ils vont bâtir le temple. Puis ça, c'est après que la petite corne. Hein, ça dit que c'est la petite corne qui va aller faire signer ça, ce traité de paix-là. On parle vraiment d'un traité de paix qui va les mettre en confiance qu'ils ne seront plus attaqués, là, qu'ils vont pouvoir rebâtir leur temple, parce que là, ils sont en guerre encore, hein, ils tombent encore des roquettes de temps en temps, là, tu sais, puis ils sont encore en guerre avec le monde arabe. Mais là, il va y avoir comme un traité de paix, et puis ils vont pouvoir rebâtir. Ça, c'est l'événement. Selon la parole, c'est l'événement qui marque le début des tribulations. Alors, c'était ma petite parenthèse. Ma petite parenthèse de. Hein, de on s'amuse dans le sens, selon, à la lumière de la parole, ce que la parole de Dieu dit, mais là, on peut, tu sais, on peut émettre des raisonnements, on peut émettre des. Quand on connaît notre Seigneur aussi, comment notre Seigneur est parfait, comment est-ce que tout est parfait dans ce qu'il fait. Alors, on est rendu à 42 minutes. On peut continuer un petit peu si vous voulez. Les étapes de la venue de notre Seigneur. Donc, premièrement, il faut savoir que. Il y a deux retours. Il y a une rencontre dans les airs, puis il y a le retour triomphal. Donc, la rencontre dans les airs, c'est 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux en même temps. Fait que ça veut dire qu'on va peut-être les voir. Hein? Quand ils vont ressusciter. Moi, je pense à mon père, puis. À ma soeur, ma mère qui est décédée. Je me dis, hey, ça serait pété, ça serait vraiment pété de voir ça. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est ça la promesse du Seigneur qui dit, non, quand si tu as pris cette décision-là, de ton. Tu as choisi, tu m'as choisi, ben tu m'as. Tu vas m'avoir pour l'éternité. 2 Thessaloniciens 2, verset 1-2, pour ce qui est de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, il va y avoir beaucoup de spéculation autour de ça. Jean 14, 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, c'était le verset de mon père, ça. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et le fameux verset 1 Corinthiens 15, versets 50 à 54. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revêtent l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Il n'y aura plus de mort. Ça va être extraordinaire. Donc le but de sa venue dans les airs, ben, c'est de prendre les siens avec lui. Hein, on a vu Jean 14, 3 tantôt. 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Nous sommes donc tous, toujours plein de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Hein? C'est ça que je vous expliquais. Dans notre corps de chair, oubliez ça, le Seigneur, il vit en nous, mais je veux dire, on ne peut pas penser servir Dieu avec ce corps-là parce que ce corps-là, ce corps de chair-là qu'on a, est ennemi de Dieu. Car nous marchons par la foi et non par la vue, nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps que demeurer auprès du Seigneur. Hein? Paul il disait « la mort m'est un gain ». Paul il avait hâte, lui, parce qu'il avait vu le troisième ciel. Hein? Il avait dit ça dans les Écritures. Bon, on a vu 1 Thessaloniciens 4:17, 1 Corinthiens 15:50. Alors, je pense qu'on va terminer là. Les prochains qu'on va voir, c'est encore des caractéristiques de l'enlèvement. Et puis, on va continuer, ça va être encore dans le premier retour de Jésus-Christ. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne continuité. Je vous souhaite vraiment que si vous êtes un chrétien, je ne sais pas combien de temps vous avez, savez pas, combien de temps vous n'avez pas ouvert le livre, est-ce que vous prenez le temps le matin? C'est pas long d'aller voir la pensée du jour, là. Tu sais, aller se connecter avec le Seigneur. La première affaire qu'on fait, on se connecte dans la pensée de Dieu. Parce que si on ne se connecte pas dans la pensée de Dieu, les soucis vont venir rapidement là, pour nous déconcentrer, pour faire du bruit là, dans notre âme. Mais quand on est connecté au Seigneur, on sait qu'il est souverain, qu'il est assis sur son trône, il règne. Il y a un plan parfait pour nous, ses enfants, avec des récompenses incroyables. Et puis là, on peut se reposer là-dedans. C'est pour ça que Paul il disait « Réjouissez-vous tout le temps. Réjouissez-vous en toutes choses, parce que si vous n'êtes pas en train de vous réjouir, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous devriez prendre conscience que votre avenir est dans l'éternité et pas ici. Ici, le monde va passer, on va le voir. Là. Tout ce qu'on va voir, tout ce que l'humanité, l'homme connaît, va tomber. Dieu va faire tomber tout ça. Ça va être épouvantable à vivre pour les gens qui sont ici. Et imaginez-vous, ils vont refuser encore de se tourner vers lui. Ils vont préférer aller souffrir éternellement. Moi, je ne comprends pas ça. Mais bon. Mais moi, je vous dis, écoutez, la parole de Dieu, c'est très, très, très important. C'est éternel. Et puis, certainement, si vous prenez le temps de quelques minutes le matin, la première chose que vous faites, vous cherchez Dieu. Ben moi, je pense que Dieu va bien vous le rendre. Puis que votre vie va être pas mal moins compliquée. Amen. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine à tout le monde et on se dit à la semaine prochaine pour le prochain partage. Bye bye à tout le monde.